tout ceci jusqu'à l'affaire Lehman Brothers, 15 septembre 2008. Ça, c'est une affaire extraordinaire et ça vaut le coup que je vous raconte une petite anecdote. Mais en faisant d'abord un détour par la crise de 29. Quand on essaye de réfléchir, quel est l'équivalent de ce que nous connaissons aujourd'hui, seule comparaison qui vient à l'esprit, c'est la crise de 29. Bon, je ne veux pas exagérer la comparaison parce qu'il y a beaucoup de choses différentes. Mais enfin, il y a des mécanismes, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'histoire, c'est très fascinant de se plonger dans cette période, il y a des mécanismes très analogues. La crise de 29, d'abord, la crise de 29, c'est 29, mais ça dure beaucoup plus longtemps. Hein, bon. Et avec, évidemment, les conséquences qu'on connaît à la fin. Mais les déclenchements ont quelque chose d'assez voisin. La crise de 29 est également liée, au départ, à une crise de l'endettement. Elle part du fait qu'un établissement financier, situé d'ailleurs en Europe, en Autriche, fait défaut, demande le rapatriement des capitaux qui sont engagés aux États-Unis. Il y a un mécanisme en chaîne qui aboutit à des faillites. Immobilière, boursière, suicide nombreux, plus de possibilités pour les banques de fournir, arrêt du crédit, et le crédit, même s'il était moins développé à l'époque, lorsque les banques arrêtent de fonctionner, c'est la thrombose, et du même coup, vous avez ce qui se développe aux États-Unis et en Europe dans les années 31, 32, 33, avec des dérives politiques épouvantables que l'on connaît à l'époque. La conférence de Londres, à l'époque, c'était un échec, pas comme celle-ci, et on retrouve, une chose égale par ailleurs, des mécanismes analogues, cupidité, déjà, complexité, beaucoup moins, conflictualité, alors là, à coup sûr, il n'y a aucune coopération des pays, des grands continents, à l'époque. Alors, bien sûr, il y a des différences considérables. À l'époque, on ne connaît pas bien ce qui se passe dans les différents pays. Aujourd'hui, on le connaît quand même assez bien. Il y a des organismes internationaux, il y a des mécanismes de surveillance. À l'époque, il n'y a pas d'intervention publique. Aujourd'hui, il y a des interventions publiques, même si on peut les juger insuffisantes. Pour ma part, je les juge insuffisantes, notamment en France. Mais il y a quand même des interventions des États. Il y a des interventions des banques centrales. À l'époque, je vais dans un instant, les interventions sont très très faibles. Et puis à l'époque, il y a la montée du protectionnisme. On peut être pour la protection, moi je suis pour une protection européenne, mais le protectionnisme c'est tout à fait autre chose. C'est le fait qu'on arrête le commerce international, ce qui évidemment est une catastrophe lorsque ça se poursuit. Donc, il y a des analogies avec la crise de 29. Il y a aussi une autre analogie que je cite en passant, même si elle lance un océan de réflexion possible, c'est que dans le cadre de la crise de 29, comme dans le cadre de la crise actuelle, c'est le passage d'un monde à un autre. La crise de 29 peut être interprétée comme le passage de l'Europe puissance dominante à l'Amérique puissance dominante. Comme le passage d'une certaine type d'économie à une économie hautement industrielle. La crise des années 2008-2009 peut être interprétée d'une certaine manière comme le passage de la domination américaine à une domination soit chinoise, soit chine-américaine. Et le passage de l'économie industrielle à l'économie numérique. Je pense qu'on ne peut pas séparer les choses, même si il me semble que l'explication principale, qui est de type politique avec un grand P, est tout de même le triangle cupidité, complexité, conflictualité. Pourquoi j'ai cité la crise de 29? Parce que il y a quelque chose de fascinant et qui est une anecdote que vous garderez peut-être en mémoire. On a beaucoup travaillé sur la crise de 29, sur ce qui s'est passé en 32, en 33, etc. Et les économistes ont beaucoup réfléchi, c'est ça qui est bien d'aborder ce sujet dans une faculté, sur les raisons pour lesquelles la crise de 29 avait abouti au désastre que l'on sait. Et en particulier, le fameux Keynes, beaucoup travaillé dessus, qui était déjà en activité, et au fond, Keynes était un grand esprit et qui en même temps était lié à tout ça, parce que Keynes est un homme qui a négocié une série de grands accords internationaux, c'est autour de ce qui s'est passé à cette époque qu'ont été dégagées toute une série de thèse que les étudiants ou les enseignants en sciences économiques connaissent bien, les théories, l'accélérateur, le multiplicateur, etc. Et pour faire court, l'explication principale de Keynes sur le désastre de la crise de 1929 est de dire que la crise de 1929 a été désastreuse parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'intervention publique et d'intervention publique collective qui aurait pu pallier l'absence d'investissement privé. À partir du moment où se crée le problème que je vous ai expliqué, l'endettement, la pyramide, les investissements s'arrêtent, la consommation s'arrête, si on ne veut pas que l'économie s'arrête, il faut qu'il y ait du carburant de substitution. Et si le carburant n'est pas privé, il faut qu'il soit public. Et Keynes dit, grande erreur qui a été commise à l'époque, c'est de ne pas alimenter ce carburant public. Bien. Et cette thèse a pas mal de validité, mais est venu plus tard un autre économiste fameux, je ne partage pas les thèses, mais qui est un autre, qui est un Américain, qui s'appelle Milton Friedman, et Milton Friedman a étudié lui-même la crise de 1929 très attentivement. Il a dit oui, bien sûr, ce que dit Keynes est intéressant, mais la véritable origine, non pas de la crise de 1929, mais de l'extension de la crise de 1929 à l'ensemble de l'économie, ce n'est pas le manque d'intervention publique, c'est le fait qu'on a laissé tomber les banques. Et que, à partir du moment où les crédits s'arrêtent, tels qu'ils fabriquaient la société, les entreprises s'arrêtent, les ménages ne peuvent plus emprunter. Et c'est ça le déterminant essentiel de l'extension de la crise de 1929. C'est ça la thèse de Milton Friedman. Et il y a eu une discussion pendant beaucoup d'années entre les économistes, est-ce que c'est Keynes qui a raison ou est-ce que c'est Milton Friedman sur l'interprétation de la crise de 1929. Et il y a un monsieur, vous allez voir où je vais en venir parce que c'est quand même fascinant, qui a tranché entre ces deux grands économistes et qui a consacré sa thèse et ses années d'enseignement, il était professeur à Princeton aux États-Unis, a tranché entre ces deux thèses. Et ce monsieur, dont vous avez peut-être entendu le nom, est un monsieur qui s'appelle Ben Bernanke, qui est un professeur. Et après avoir réfléchi pendant de longues années aux deux explications, il a dit c'est M. Milton Friedman qui a raison. Quand je reprends les chiffres, etc., bien sûr, il y a eu des faux d'intervention publique, mais ce qui a créé vraiment la panique, c'est le jour où on n'est pas venu au secours des établissements financiers. Et voilà que M. Bernanke, qui était professeur à Princeton, voilà que la crise arrive aux États-Unis. Et voilà que ce M. Bernanke, M. Greenspan part en retraite, est nommé président de la Federal Reserve américaine, le président de la Banque centrale américaine. C'est-à-dire que le monsieur qui avait le plus étudié, il a consacré sa vie, ce qui s'est passé en 1929, devient le président de la Banque centrale américaine. Et ce président est mis face à la crise qui ressemble à la crise de 1929. C'est quand même fascinant l'histoire. Ayant consacré sa vie à l'analyse de la crise de 1929, ayant pris parti pour les thèses de Friedman, voilà que ce monsieur est confronté avec toute une série de faillites potentielles d'un certain nombre d'établissements. Et à chaque fois, sa réaction est la même. Il dit, bien sûr, les dirigeants de ces entreprises se sont comportés comme des gougnafiers, ils ont mené leur entreprise à la faillite, ils s'en sont mis plein les poches, c'est horrible. Mais compte tenu de l'enseignement de la crise de 1929, il faut quand même venir au secours des banques, sinon ce sera la catastrophe. Et il fait cela jusqu'au 15 septembre 2008. Jour où un établissement qui s'appelle Lehman Brothers, qui est une très grande banque, présente son dossier et dit « J'ai besoin de plusieurs dizaines de milliards de dollars, sinon je fais faillite. » Et monsieur Bernanke, devant l'horreur de ce dossier, c'est-à-dire vraiment des dirigeants qui s'étaient comportés n'importe comment, dit, mais écoutez, moi j'ai consacré ma vie à l'analyse de la crise de 1929, je crois à la seule chose, c'est qu'il ne faut pas permettre qu'une grande banque fasse faillite, mais là, vraiment, je ne peux pas. Et donc, il dit, moi je ne viens pas au secours des Lehman Brothers. Et Lehman Brothers fait faillite, c'est le 15 septembre 2008, et c'est à ce moment-là que la crise devient mondiale. C'est quand même fascinant comme histoire. Alors, je voulais vous la raconter, parce que Fais réfléchir.